merci d'être avec nous sur la 1337 et sur Planète Info. Très bon début de soirée en ce jeudi 4 juillet 2024. On fait un point sur l'actualité puisqu'il est tout juste 19h. Et à la une ce soir, les législatives, dans un climat qui se tend à 3 jours du verdict des urnes, les partis jettent leur dernière force dans la bataille, Marine Le Pen assimilant l'instauration d'un front républicain contre le RN. Nous irons à l'international dans ce journal et puis en Angleterre, au Royaume-Uni où on vote ce jeudi pour les législatives qui laissent augurer une lourde défaite des conservateurs au pouvoir depuis 2010 au profit d'un parti travailliste de centre-gauche. Nous parlerons foot également, la légende de Kylian Mbappé commence avec son admiration sans borne tout jeune pour Cristiano Ronaldo, le joueur international portugais. Les deux grands s'affronteront demain à partir de 21h pour l'Euro 2024. Et puis on jettera un coup d'œil sur vos températures également, votre météo, remontée des températures hein, pour demain, avant une dégradation orageuse sur le sud-ouest. Et puis notre reportage à la fin de ce journal eh bien, vous emmène aujourd'hui à Cuba, sur l'île, à l'ouest de l'île. Celle-ci est victime de régulières coupures de courant, nous y verrons un peu plus clair dans quelques instants. Soyez toutes et tous les bienvenus. C'est donc dans un climat qui se tend à 3 jours du verdict des urnes, les partis jettent leur dernière force dans la bataille, Marine Le Pen assimilant l'instauration d'un front républicain contre le RN, un parti unique contre l'extrême droite, quand Gabriel Attal va soutenir dans les Hauts-de-Seine une candidate victime d'agression, Planète Info reportage. Alors que les candidats sont encore en campagne dans 501 des 577 circonscriptions, après 76 élections au premier tour, les derniers jours sont marqués par une multitude d'accrochages verbaux mais aussi physiques. Mercredi soir, la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot, candidate dans les Hauts-de-Seine, a été victime avec son équipe d'une agression lors d'une opération de collage d'affiches. Gabriel Attal s'est rendu ce jeudi et a porté son soutien à la candidate. Ce qui s'est produit est absolument inqualifiable. La démocratie ne peut pas faire l'objet d'attaques et d'agressions. Les sanctions seront très lourdes, a affirmé le Premier ministre lors d'un déplacement à Nevers, dans la Nièvre, pour soutenir le député Modem Perrine Ngoulet. En Savoie, la candidate RN Marine Duchy a porté plainte après avoir été violemment prise à partie par un commerçant sur un marché. En Isère, l'ancien ministre Olivier Véran a dénoncé jeudi l'agression d'un élu local qui collait des affiches pour sa campagne. Le gouvernement se prépare à l'éventualité de troubles à l'ordre public dimanche soir, sans pour autant que ceci soit clairement identifié. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a d'ailleurs annoncé que 30 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris et en banlieue, seraient mobilisés. Et dans le même temps, François Ruffin annonce qu'il ne s'alliera pas à la gauche. Écoutez, sa réaction chez nos confrères de RTL, c'était ce matin.
Oui, j'en suis parti. J'ai refusé l'investiture de la France Insoumise il y a 15 jours. Mes désaccords avec Jean-Luc Mélenchon sont connus, ils sont profonds, sur la démocratie, sur le bruit et la fureur plutôt que la force tranquille. Et donc, ma place ne sera pas dans le groupe La France Insoumise si jamais je suis élu. Parce
vous ne siégerez pas à leur côté si vous êtes élu. Vous ne siégerez pas à leur côté si vous êtes élu.
Non, je pense que...
C'est fini.
Il y a beaucoup de gens bien, il y a pas de doute chez les insoumis. Voilà, tout ça est très bien. Et il y a moyen de faire autre chose avec des amis communistes, écologistes, générations et ainsi de suite.
La réaction de François Ruffin, pardon, chez nos confrères de RTL, c'était ce matin. Toujours en France, l'opératrice du SAMU qui s'était moquée des appels à l'aide de Naomi Muzenga est condamnée à 12 mois de prison avec sursis. La décision du tribunal va au-delà des réquisitions du parquet qui demandait 10 mois de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger. La famille de Naomi Muzenga attendait ce procès depuis plus de 6 ans. Et puis l'ex-maire de Cantes-le-Mélanie Boulanger a été relaxée des accusations de complicité de trafic de drogue. Elle était accusée notamment d'avoir participé à un vaste trafic de drogue au cœur de sa ville. 19h04 et nous partons à l'international à présent. Les électeurs votent ce jeudi au Royaume-Uni pour les législatives qui laissent augurer une lourde défaite des conservateurs au pouvoir depuis 2010 au profit d'un parti travailliste de centre-gauche qui suscite un espoir prudent. Planète Info reportage. après 5 premiers ministres, l'austérité, la crise du coût de la vie, un système de santé publique à bout, les Tories se sont attirés tant de griefs des Britanniques qu'ils n'avaient plus qu'une ambition pour les derniers jours de campagne, essayer d'empêcher que le Labour dispose d'une super majorité. Sauf coup de théâtre, c'est le travailliste Keir Starmer, un ancien avocat de 61 ans qui se verra confier la tâche de former un gouvernement par le roi Charles III vendredi, après avoir recensé son parti et promis le retour du sérieux à la tête du pays. Son arrivée à Downing Street serait celle d'un modéré quand l'extrême droite frappe à la porte du pouvoir en France, quand se profile la possibilité d'un retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Le changement. Aujourd'hui, vous pouvez voter pour, a écrit sur X, Keir Starmer, entré en politique il y a seulement 9 ans. Il a coché son bulletin de vote jeudi matin dans le nord de Londres, arrivant main dans la main avec son épouse Victoria. Le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a quant à lui voté en tout début de matinée dans sa circonscription du nord de l'Angleterre avec sa femme Akasha Murty. Sur X, il a agité la menace d'impôts plus élevés pour le reste de notre vie à cause du Labour. Les estimations sont attendues à la clôture des bureaux de vote à 22h, 21h, heure GMT, avant que les résultats ne s'égrènent jusqu'au petit matin. Planète Info, reportage. L'UE a imposé jeudi à titre conservatoire jusqu'à 38% de droits de douane supplémentaires sur les importations de véhicules électriques chinois avant une décision définitive en novembre, accusant Pékin d'avoir illégalement favorisé ses constructeurs. Le Hezbollah libanais a tiré ce jeudi plus de 200 roquettes et lancé des drones explosifs sur le nord d'Israël, faisant redouter une nouvelle escalade militaire dans cette région en marge du conflit dans la bande de Gaza. La guerre déclenchée le 7 octobre par l'attaque du Hamas sur le sol israélien s'accompagne d'une flambée des violences dans la région, à la frontière nord d'Israël avec le Liban, où les échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah, alliés du mouvement islamiste palestinien, ont gagné en intensité ces dernière semaine. Vous écoutez la 1337 et Planète Info, il est 19h07 et General Motors va verser à l'agence américaine de sécurité routière, tenez-vous bien, 145,8 millions de dollars au titre de pénalité pour avoir notamment sous-évalué le niveau des émissions de ces véhicules. Retour en France, et les plages du sud-ouest, prenez garde, de la France ont été placées en alerte maximale vendredi et samedi pour le risque de baïnes, source de courants marins dangereux pour les baigneurs, ont annoncé jeudi les autorités avant le début des vacances scolaires ce week-end. L'ensemble des plages des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde, de la Charente-Maritime sont concernées par ces deux journées à risque maximal, précise le centre opérationnel de la zone de défense et de sécurité sud-ouest, qui appelle les nageurs à rester entre les pots des postes surveillés. Je vous rappelle quand même les numéros d'urgence, le 196 pour les urgences en mer, le 18 pour les sapeurs-pompiers et le 15 pour le SAMU. On passe au sport et du Tour de France d'abord. Victoire du coureur Dylan Groenewegen au sprint sur cette 6e étape du Tour de France. Et puis la légende de Kylian Mbappé qui commence avec son admiration sans borne tout jeune pour Cristiano Ronaldo, mais l'enfant s'est mué en attaquant sans pitié qui tentera de précipiter la retraite internationale de son idole vendredi lors du quart de finale à Portugal-France à 21h de l'Euro 2024. Les résultats seront à retrouver sur notre site internet planeteinfo.wixsite.com/webradio. Vous écoutez la 1337 et Planète Info, on fait un point sur vos conditions météo. Et pour votre météo, eh bien de la Bretagne à la frontière belge, un ciel gris s'impose le matin avec de faibles pluies. Le vent de sud-ouest est sensible avec quelques rafales entre 50 et 70 km/h. Côté température, comptez 8 à 12 degrés sur la moitié nord, 10 à 16 degrés dans le sud, jusqu'à 16 à 20 degrés dans le sud-est. Les maximales atteignent 19 à 22 degrés de la Bretagne aux côtés de la Manche. Aux côtés de la Manche, 22 à 27 degrés sur la moitié nord du pays et 26 à 31 degrés degrés sur le sud. Voilà pour votre météo. Tout de suite, on passe à notre reportage. Et ce jour, nous partons dans l'ouest de Cuba. L'île est, vous allez le voir, fortement perturbée par les coupures d'électricité. C'est un reportage d'Arthur Bex pour Planète Info, la 1337, avec les informations de l'AFP. Entre coupures de courant et manque de matériel, les travailleurs d'une coopérative de production de canne à sucre tentent dans l'ouest de Cuba de maintenir à flot leur entreprise, créée il y a plus de 30 ans pour transformer la production agricole au moment où l'île souffrait déjà d'une sévère crise économique. La récolte de la canne à sucre 2023-2024 vient de s'achever et les chiffres de production n'ont pas encore été officiellement annoncés. Mais l'unité coopérative de production de base, UBPC, Rigoberto Corcho, situé dans la province d'Artemisa, dans l'ouest, à 60 km au sud-ouest de la Havane, prépare les nouvelles plantations. Le travail se fera avec zéro matériel, regrette auprès de l'AFP, Reynaldo Epsnoza, 54 ans, à la tête de la coopérative. La seule chose qu'on a ici, c'est du sacrifice, du dévouement et de la dévotion à la tâche. Selon le responsable, le rendement de la coopérative dont la production s'est vendue à l'État a chuté au cours des 5 dernières années, passant de 84 à 28 tonnes de canne par hectare. Il énumère une série d'obstacles, zéro engrais, zéro herbicide, un manque de carburant et des coupures d'électricité assez fréquentes pendant les heures de production. Cuba traverse depuis la fin de la pandémie de sa crise économique, la plus grave depuis les années 1990 et la fameuse période spéciale, ces années de pénurie qui suivirent la chute de l'URSS et la fin des subsides soviétiques. En cause, la conjugaison de facteurs internes et externes, faible récupération économique post-Covid, durcissement des sanctions de Washington qui imposent à l'île, notamment un embargo depuis 1962, échec d'une réforme financière, faiblesse structurelle de l'économie. La coopérative a vu le jour en 1993, précisément pour faire face à la situation difficile dans laquelle se trouvait le secteur agricole, qui avait alors brusquement perdu 75% de ses échanges commerciaux avec Moscou et quasiment sa seule source de crédit. À l'époque, la plupart des termes d'État ont été transformés en coopératives qui ont repris les terres. L'État a également vendu à ses anciens travailleurs les moyens de production. Pour diversifier ses revenus, la coopérative Rigoberto Corcho s'est lancée dans l'élevage et a créé un atelier de fabrication de charrettes et d'autres outils agricoles ainsi qu'une usine de matériaux de construction. Dans les installations, le silence règne. José Calvio, un soudeur mécanicien de 59 ans, attend impatiemment le retour de l'électricité et d'avoir le gaz nécessaire pour finir de souder un chariot. « Nous sommes désœuvrés, nous n'avons rien pour travailler. » Depuis mars, à une nouvelle vague de coupures d'électricité causée par les difficultés du gouvernement à acheter le combustible et les pièces nécessaires au fonctionnement et à la réparation des centrales thermoélectriques vieillissantes du pays. Des pénuries qui empêchent également d'utiliser les machines dans les champs pour l'irrigation ou encore le désherbage. Il faut travailler avec le guataca, le hou, ce que nous faisons, et avec des machettes, nous n'avons rien d'autre, explique Leonardo Hernandez, 64 ans, un autre dirigeant de la coopérative. Jusqu'en 1989, Cuba était le premier exportateur mondial de sucre, les États-Unis étant son premier client jusqu'en 1960. Puis vient l'Union soviétique, qui achetait à des prix préférentiels. À la chute de l'URSS, elle a précipité le déclin de l'industrie qui s'est accéléré avec la baisse des cours, le manque d'investissement et la réduction du nombre d'usines sucrières, passées de 156 à 56. Depuis 2021, le groupe public AzCuba tente d'enrayer le déclin du secteur, mais la récolte 2022-2023 a atteint à peine 350 000 tonnes de sucre, soit 4,4% de la production cubaine jusqu'au début des années 1990. Selon Reynaldo Espinoza, c'est au prix d'un grand sacrifice. La coopérative a réussi à dépasser 22% de son programme de livraison de canne à l'État lors de la récolte achevée en juin avec 10 252 tonnes produites. Mais il souligne que le secteur sucrier cubain traverse le pire moment de son histoire et que son redressement prendra du temps. Notre seule solution, nous remettre au travail dès que l'électricité reviendra. Voilà pour ce reportage qui est bien sûr retrouvé comme tous les autres et comme ce journal en intégralité sur notre site internet planeteinfo.wixsite.com/webradio et sur la 1337, bien sûr la 1337.com en podcast. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, bien évidemment. Je vous souhaite de passer une très belle soirée à notre écoute.